Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 6. L'enrôlement. On donna à Quentin Durward le cheval d'un des suivants, et en compagnie de ses belliqueux compatriotes, il se dirigea rapidement vers le château, destiné à devenir, un peu malgré lui, un des habitants de cette forteresse, dont l'extérieur, le matin même, lui avait causé une si vive surprise. Chemin faisant, en réponse aux questions pressantes de son oncle, il raconta l'aventure qui avait failli se terminer d'une façon si tragique. À sa grande surprise, toute la troupe se mit à rire à ses dépens. Après tout, il n'y a pas tant de quoi rire, dit son oncle, car au nom du diable, qu'est-ce qui a pu pousser ce jeune fou à s'occuper de la carcasse d'un de ces maudits mécréants, d'un de ces païens, juifs, morts? Peu importe, dit Lindsay. Moi, je pense que cela touche à notre honneur de voir Tristan et son monde prétendre confondre nos bonnets écossais avec les toques et les turbans de ces voleurs et de ces vagabonds. C'est mon idée que Tristan a fait semblant de se tromper, pour mettre le grappin sur les bons écossais qui viennent ici voir leurs parents. Nous voici au château, dit Cunningham. J'offre un baril de vin pour nous réjouir entre amis, pour boire à l'Écosse, si vous voulez venir dîner chez moi. Convenu, convenu, répondit le balafré. Et moi j'offrirai un autre baril, pour boire à la santé de mon neveu et à son entrée dans notre corps. À leur approche, le guichet fut ouvert et le pont-levis s'abaissa. Ils entrèrent un par un. Mais lorsque Quentin se présenta, les sentinelles croisèrent leurs piques. On lui commanda de faire halte. Les arcs furent bandés, et les arquebuses le visèrent du haut des murs. Et pourtant, le jeune étranger venait en compagnie d'une partie de la garnison, bien plus avec les archers qui fournissaient les sentinelles. Mais telle était la consigne, et elle fut exécutée dans toute sa rigueur. Le balafré, qui était resté à côté de son neveu, donna les explications nécessaires. Après beaucoup d'hésitations et de délais, le jeune homme fut conduit avec une forte escorte à l'appartement de Lord Crawford. Ce noble écossais était un des derniers survivants de cette brave troupe de lords et de chevaliers écossais qui avait si longtemps et si fidèlement servi sous Charles VI, dans ces guerres sanglantes qui assurèrent l'indépendance de la couronne de France et procurèrent l'expulsion des Anglais. Il s'était battu, tout jeune encore, aux côtés de Douglas et de Buchan, et avait marché sous la bannière de Jeanne d'Arc. Les changements survenus dans le royaume d'Écosse, et peut-être l'habitude qu'il avait du climat et des manières de la France, avaient décidé le vieux baron à y demeurer pour toujours. Il avait d'ailleurs un grand ascendant sur le roi, peu enclin à croire à l'honneur et à la vérité chez les hommes. Louis XI avait foi en la vertu et en l'honneur de Crawford. Le balafré et Cunningham suivirent Durward et son escorte chez Lord Crawford. L'apparence pleine de dignité du vieux lord, le profond respect que lui témoignaient des soldats aussi fiers, et qui semblaient n'avoir de respect que pour lui, tout cela fit une impression profonde sur l'esprit du jeune homme. À l'entrée de ces visiteurs inattendus, Lord Crawford, d'un air assez maussade, leur demanda ce que diable il lui voulait à présent. Le balafré, avec plus de respect qu'il n'en aurait témoigné au roi lui-même, lui expliqua la situation de son neveu, et demanda pour lui la protection de sa seigneurie. Le vieux lord ne put s'empêcher de sourire de la simplicité du jeune homme, mais il secoua la tête quand il entendit parler de l'altercation qui avait eu lieu entre les archers écossais et la garde du prévôt. « Combien de fois, dit-il, m'apporterez-vous de ces écheveaux embrouillés à démêler? Combien de fois faudra-t-il que je vous répète, et spécialement à vous, Ludovic Leslie, et à vous, archer Cunningham, qu'un soldat étranger doit se conduire modestement et décemment avec les gens du pays, s'il ne veut pas avoir tous les chiens de la ville à ses trousses? Pourtant, s'il vous faut absolument vous faire une affaire, j'aime mieux que ce soit avec ce misérable prévôt qu'avec un autre, et je vous blâme moins pour cette attaque que pour certaines de vos frasques, Ludovic. Il était tout simple et tout naturel de prendre le parti de votre parent. Il ne faut pas que cet innocent pâtisse. Donnez-moi la liste de la compagnie qui est là sur cette planche, et nous allons y écrire son nom, pour qu'il jouisse de nos privilèges. Là, vous faites maintenant partie, Quentin, de notre honorable corps de la garde écossaise, comme écuyer de votre oncle, et servant sous sa lance. J'espère que vous ferez votre devoir, car vous devez être un vrai homme d'armes, si votre courage répond à votre bonne mine. Et puis, vous descendez d'une noble race. Ludovic, vous veillerez à ce qu'il apprenne diligemment ce qu'il doit savoir, car nous romprons des lances un de ces jours. Par la garde de mon épée, j'en suis bien content, mylord. Cette paix ferait de nous tous des couards. Moi-même, je me sens l'esprit très bas, renfermé dans ce maudit donjon. Eh bien, un oiseau m'a sifflé à l'oreille que la vieille bannière flottera bientôt sur le champ de bataille. Moi, dit le balafré, je boirai ce soir un coup de plus en l'honneur de cette bonne nouvelle. Toutes les nouvelles te sont prétexte à boire, riposta Lord Crawford. Prends bien garde de boire ta mort quelque jour. Leslie répondit, un peu confus, qu'il y avait longtemps que cela ne lui était arrivé, mais sa seigneurie savait bien qu'il était d'usage de fêter l'arrivée d'un nouveau camarade. C'est vrai, dit le vieux capitaine. J'avais oublié cette occasion. Je vous enverrai quelques cruches de vin pour vous tenir en joie, mais que tout soit fini au coucher du soleil. Et puis, écoutez, que les soldats de service soient bien et dûment choisis, et qu'aucun d'eux, veillez-y, ne prenne, peu ou prou, part à votre débauche. Votre seigneurie sera strictement obéie, dit Ludovic, et nous n'oublierons pas de boire à votre santé. Peut-être, reprit Lord Crawford, irai-je faire par là un petit tour, pour être bien sûr que votre gaieté ne dépasse pas les bornes. Votre seigneurie sera la très bienvenue, répondit Ludovic. Et tous se retirèrent en excellente disposition pour veiller aux préparatifs de leur banquet militaire. Leslie invita une vingtaine de ses camarades qui avaient l'habitude de faire table commune. Un festin militaire ne demande pas en général de grands préparatifs, pourvu qu'il y ait assez à boire et à manger. Mais cette fois, Ludovic se donna beaucoup de mouvements pour trouver mieux que le vin ordinaire, car, disait-il, le vieux lord, qui leur prêchait si bien la sobriété, après avoir bu à la table du roi autant de vin qu'il en pouvait boire décemment, ne perdait pas une occasion de terminer la soirée en tête-à-tête avec la cruche de vin. Aussi, camarades, dit-il, vous pouvez vous préparer à entendre les vieilles histoires des batailles de Verneuil et de Baugé. Le plus pressé, une fois qu'on eut vaqué aux apprêts du banquet, ce fut de pourvoir le nouveau venu du costume et des armes de la garde, afin qu'il parût de tout point autorisé à partager ses importants privilèges et à braver le mauvais vouloir du prévôt. Le banquet fut des plus gais. On chanta de vieilles chansons écossaises. On conta les exploits des anciens héros écossais. Au moment où l'enthousiasme était à son comble, la gaieté générale reçut une nouvelle impulsion par suite de l'entrée de Lord Crawford. Le balafré avait prophétisé vrai. Le vieux lord avait été sur les épines pendant toute la durée du dîner du roi, et il avait saisi le premier prétexte pour se retirer et aller rejoindre ses compatriotes. Un fauteuil d'honneur lui avait été réservé au haut bout de la table. Il refusa d'abord de l'occuper, et debout au milieu de la salle, recommanda aux banqueteurs de se tenir en joie, les regardant avec l'expression de la plus vive satisfaction. Comme Lindsay lui offrait à boire, Cunningham lui dit tout bas: Laissez-le tranquille, il y viendra bien tout seul. Le fait est que le vieux lord, après avoir refusé en souriant et déposé la coupe sans y toucher, commença comme par distraction à boire quelques petites gorgées. Il se souvint alors, fort à propos, qu'il devait faire honneur au nouveau venu et but à sa santé. La coupe vidée fut remplie de nouveau et à plusieurs reprises. Puis l'on but à la santé du noble Lord Crawford, le brave défenseur des privilèges et des droits de ses compatriotes. Le noble Lord ne pouvait se dispenser de faire raison à ses amis, et peu à peu, comme par mégarde, il se glissa dans le fauteuil où il avait d'abord refusé de prendre place. Après de nombreuses libations, le noble lord eut la langue un peu épaisse, ce qui ne l'empêcha pas de recommander, avec un grand sérieux, la sobriété au jeune Quentin d'Hurward. Tout à coup, Cunningham se leva et dit: Buvons tous au jour, le plus proche possible, où se déploiera l'oriflamme. Et à la brise de Bourgogne qui en fera flotter les plis, ajouta Lindsay. J'y bois de tout mon cœur, dit Lord Crawford, et si vieux que je sois, je puis la voir flotter encore. Écoutez, compagnons. Le vin l'avait rendu communicatif. Comme vous êtes tous de fidèles serviteurs de la couronne de France, je ne vois pas pourquoi je vous laisserais ignorer qu'un envoyé de Charles de Bourgogne est ici chargé d'un message qui n'est pas un message de paix. J'ai vu, dit un autre convive, l'équipage, les chevaux et la suite du comte de Crèvecœur à l'hôtellerie du Bois des Mûriers. On dit que le roi refuse de le recevoir au château. Puisse le ciel lui inspirer une réponse malplaisante, s'écria Guthrie. Mais de quoi se plaint-il? De ce qui se passe sur la frontière. Il a mille griefs de ce côté, dit Lord Crawford. Et puis, il se plaint de ce que, tout dernièrement, le roi a reçu sous sa protection une dame de sa terre, une jeune comtesse qui s'est enfuie de Dijon, parce que, sous prétexte qu'elle est sa pupille, le duc voulait la marier à son favori, Campo Basso. Est-ce qu'elle est venue seule ici, mylord? Demanda Lindsay. Non, pas absolument seule, mais avec une vieille comtesse, sa parente. Que fera le roi? Demanda Cunningham. Le roi, selon son habitude, sera guidé par les règles de la politique, et vous savez, continua Crawford, qu'il n'a pas reçu publiquement ces deux dames, et qu'il ne les a pas placées sous la protection de ses deux filles, la dame de Beaujeu et la princesse Jeanne, ce qui prouve bien qu'il se décidera selon les circonstances. Mais le duc de Bourgogne, dit Cunningham, acceptera-t-il ces faux fuyants? Non, répondit le vieux lord. Aussi, il est probable qu'il y aura de la brouille entre eux. C'était ce que souhaitaient ardemment tous les convives. L'un d'entre eux, nommé Arnaud, communiqua aux autres une nouvelle pleine d'intérêt. Il la tenait d'un des hommes de service de l'hôtellerie de la Fleur de Lys. Cet homme avait conduit de l'hôtellerie au château deux dames, en litière fermée. C'étaient deux grandes dames qui avaient vécu secrètement à l'hôtellerie pendant plusieurs jours. Le roi leur avait rendu plusieurs visites, sans escorte, et leur avait témoigné beaucoup de respect. L'homme de service croyait que, si elles s'étaient enfuies précipitamment de l'hôtellerie au château, c'était par crainte du comte de Crèvecœur, ambassadeur du duc de Bourgogne, qui s'était fait annoncer par un courrier.